Exode chapitre 4, et vous vous rappelez qu'on est après l'épisode du buisson ardent. Moïse a répondu, a rencontré Dieu qui l'envoie en Égypte, et on va voir ce qui se passe à ce moment-là, une fois que Dieu s'est adressé à Moïse. Moïse répondit: Ils ne me croiront pas, c'est-à-dire les Israélites, et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront: L'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Un bâton. L'Éternel dit: Jette-le par terre. Il le jeta par terre et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. C'est, dit l'Éternel, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Sa main était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Il dit: Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil. Tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesantes. L'Éternel lui dit: Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: N'y a-t-il pas ton frère, Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur. Tu lui parleras, et tu mettras ses paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras les signes. Moïse s'en alla. Et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, vous vous rappelez que ça s'est tout passé, tout cet épisode s'est passé à la montagne de l'Éternel, la montagne du Sinaï. Et là, il retourne vers son beau-père et il lui dit: Je vais aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte et voir s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: Va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian: Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse: En partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant le Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras au Pharaon: Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis: Laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron: Va dans le désert au devant de Moïse. Il partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites, donc en Égypte. Aaron, rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il opéra les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Voilà cette lecture. Et avant le message, je vous invite à ce qu'on chante un dernier cantique dans la Toile à gloire, le numéro 206. Pour nous préparer au message qui va suivre, le numéro 206 dans le recueil Enseigne-moi Seigneur. Est-ce que la température ça va? Parce que je crois que dimanche passé il faisait un peu chaud. Ça vous va?
Ça va?
Vous n'avez pas à vous endormir pendant le message. Si vous lisez un peu les journaux ou que vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'il y a des moments où on passe par un creux. On vient de vivre une grande élection en début de semaine pour la présidence des États-Unis. C'est pas encore les primaires en France, donc c'est un peu comme une pause dans l'actualité. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Et c'est peut-être pas une très bonne comparaison, mais c'est un peu le même sentiment qu'on peut avoir quand on arrive au chapitre 4 du livre de l'Exode, parce que c'est une transition un peu coincée entre des événements majeurs de l'histoire du salut. Dieu a agi de manière extraordinaire lors de certains épisodes dans l'histoire. On est entre l'épisode du buisson ardent où Moïse a rencontré Dieu personnellement, je suis celui qui suis. On est entre cet épisode-là et les plaies d'Égypte, la Pâque, le passage de la mer Rouge qui vont suivre, des événements énormes. Et donc ça fait un peu l'effet d'un creux. Et en plus, il y a toutes sortes de choses bizarres qui se passent. Il y a un bâton qui se transforme en serpent, il y a deux frères qui deviennent la bouche de Dieu, il y a la femme de Moïse qui mutile son fils pendant la nuit, plein de choses étranges qui n'ont pas l'air d'avoir vraiment de lien ensemble. Pourtant, c'est un chapitre de la Bible qui est important aussi, et il a aussi vraiment une unité. À quoi est-ce qu'on le voit? On voit que ce chapitre est une unité lorsqu'on compare le premier et le dernier verset du chapitre. C'est un peu comme deux parenthèses. Ça sert à quoi des parenthèses normalement? Quand vous lisez un livre, vous arrivez à une parenthèse. En général, c'est simplement une pause dans le récit principal hein, qui va juste vous donner quelques détails supplémentaires. Et là, c'est vraiment la même chose. Si vous regardez le premier verset, on a une première parenthèse. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. » Vous vous rappelez que Dieu avait appelé Moïse de l'intérieur du buisson ardent pour lui confier une mission. Il l'envoie annoncer au peuple et au Pharaon le salut, la délivrance qu'il est sur le point d'accomplir. Et Moïse répondit, ils ne me croiront pas. Et venez voir maintenant le dernier verset, le verset 31, c'est la deuxième parenthèse. On lit au verset 31, le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité l'Israélite qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Comment est-ce qu'on est passé du verset 1, ils ne me croiront pas, au verset 31, le peuple crut. Hein? Autrement dit, comment est-ce que la mission que Dieu avait confiée à Moïse a été, comment est-ce qu'elle a été un succès? Et ça, c'est une question qui nous concerne nous aussi, parce que à l'image de Moïse, Dieu nous envoie faire quelque chose dans le monde. Hein? Dieu n'appelle personne à lui sans lui confier aussi une mission, une autre mission, la mission de l'Église, c'est d'aller dans le monde pour faire des disciples en proclamant l'évangile de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit pour que ses disciples puissent adorer le Seigneur et obéir à ses commandements à la gloire de Dieu le Père. C'est ça notre mission à nous. Vous avez compris que je fais référence au mandat que Jésus nous donne à tous, à nous tous qui sommes ses disciples après sa résurrection. En Matthieu 28, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors c'est ça notre mission. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer notre mission à celle de Moïse. Il n'y a qu'un seul Moïse. Et avant d'être notre modèle, d'être un modèle pour nous, Moïse est surtout une préfiguration de Christ qui va délivrer son peuple. Mais je crois que particulièrement dans ce chapitre, il y a des vrais parallèles qui peuvent être tirés entre sa mission à lui et la nôtre. Et voir ces parallèles pour nous ce matin, ça devrait vraiment nous remplir d'émerveillement, de stupeur, de voir que notre mission est glorieuse. Elle n'est pas moins glorieuse que celle de Moïse, bien au contraire. Alors, quels sont les moyens que Dieu nous donne pour cette mission? Quelle est la promesse qui s'attache à la mission? Et quelle est la condition? Quelle en est la condition? Donc, quels sont les moyens, la promesse et la condition de la mission? C'est ça qu'on va essayer de voir, on va se demander ce matin avec l'appui de ce passage. Donc tout d'abord, quels sont les moyens que Dieu nous donne pour accomplir la mission à laquelle il nous appelle? Et c'est vraiment les 10 premiers versets qui répondent à cette première question. Et il y a quelque chose de très surprenant dans ces versets. On vient de le voir, Moïse, il objecte à la mission que Dieu lui donne d'aller vers les Israélites en disant « mais ils ne vont pas me croire ». Alors, l'Éternel lui donne trois signes, un bâton qui se transforme en serpent, une main en bonne santé qui se transforme en main lépreuse, de l'eau qui se transforme en sang. Regardez au verset 9, par exemple, Dieu dit « s'ils ne croient pas même à ces deux signes, les deux premiers, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. » Et là, quelque chose d'étonnant se produit. Que répond Moïse au signe que Dieu lui donne? Regardez le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. » Pourquoi est-ce que cette réponse de Moïse est surprenante? Elle est surprenante, cette réponse, parce que Dieu vient de lui donner des signes à faire aux yeux du peuple, et Moïse craint que sa parole n'arrive pas à leurs oreilles. Vous voyez, Dieu lui dit de faire quelque chose, et Moïse se plaint qu'il n'arrive pas à parler. Il y a un décalage. Oui. Qu'est-ce que ça nous indique alors? Ce décalage-là nous indique que Moïse avait en fait très bien compris le rôle des signes, que les signes n'étaient là que pour accompagner sa parole, que son appel c'était de proclamer la parole de Dieu, il était envoyé pour parler, que les signes étaient là pour confirmer, pour illustrer, mais certainement pas pour se substituer à la parole prêchée. On vit, nous, aujourd'hui, dans une société qui a longtemps baigné dans l'écriture ou la parole, mais qui est entrée depuis un moment déjà dans une culture de l'image. Depuis un moment déjà, parce que c'est pas nouveau. J'étais frappé en réfléchissant à ça. Jacques Ellul, vous connaissez peut-être, c'est un philosophe chrétien du XXe siècle. Il avait déjà écrit en 1979 un livre qui s'appelle La Parole humiliée, avec un P majuscule en référence à la parole de Dieu, La Parole humiliée, où il faisait justement, il parle de ce passage d'une société dominée par l'écrit et la parole à une société de l'écran numérisé, mais ça c'était en 1979. Imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, on poste, on relaye des images, des vidéos, etc. Les élections présidentielles, puis j'en parlais à l'instant, même les guerres, on le voit en Syrie aujourd'hui, c'est des batailles d'images. Parce qu'on sait qu'une image vaut plus qu'un long discours. C'est ça la puissance d'une image. Alors, je ne suis pas en train de dire si c'est bien ou pas, c'est juste un constat. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'on ne montre pas, ça n'existe pas. Ce qu'on ne montre pas, ça n'existe pas. Que Dieu parle, ça n'intéresse personne, à la limite qu'il se montre. Et ce constat, ça peut induire chez nous, je crois, en chrétiens, une perte de confiance dans la puissance de la parole prêchée pour transformer des vies, pour changer des cœurs, pour avoir un impact vraiment dans la société qui nous entoure. Quand on voit le peu d'intérêt pour la Bible aujourd'hui, quand on voit des personnes qui ont entendu l'évangile depuis tout petit et que ça laisse apparemment en tout cas de marbre, quand on voit si peu de personnes se convertir, en France particulièrement, est-ce qu'on n'a pas des doutes sur ce que la parole peut vraiment faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on regarde la misère qui est autour de nous, l'injustice, la corruption, on peut en venir à se dire en tant que chrétien, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important à faire que de simplement annoncer la parole, je sais pas, se battre pour plus de justice sociale, par exemple, etc. On connaît ces doutes-là. Eh bien, Moïse, qui vivait pourtant dans une société très différente de la nôtre, il avait les mêmes doutes quant à la puissance de la parole, quant à l'efficacité de la parole. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les commentateurs soulignent que Moïse était un homme d'action. Comme l'indique par exemple l'incident du contremaître égyptien, vous savez que Moïse a mis à mort, et puis les bergers qui en voulaient aux filles de Jéthro que Moïse a chassé. Moïse est un homme d'action. La première fois, sa première tentative de prendre la parole, c'est un échec. Toujours au chapitre 2, comme on l'avait vu, quand il a essayé de se faire l'arbitre en deux Hébreux qui se battaient, c'est un échec. Ici, au verset 10, il dit lui-même qu'il a la bouche et la langue pesantes et que ça date pas d'hier ni même d'avant-hier. C'est quelque chose qu'il a depuis toujours. Et plus tard, vous vous souvenez peut-être dans le désert, quand Dieu ordonne à Moïse de parler au rocher pour que de l'eau jaillisse du rocher, qu'est-ce que Moïse fait ? Au lieu de parler au rocher, il le frappe. Mais par contre, ce qui est frappant, c'est que son dernier livre, le dernier livre que Moïse a écrit, le Deutéronome, s'intitule en hébreu « Le livre des paroles », justement. Et c'est un immense discours de Moïse qui est adressé au peuple d'Israël, livre des paroles. Moïse, l'homme d'action, a dû apprendre à parler et il a dû apprendre à se confier dans la parole de Dieu. Ce n'était pas plus naturel pour lui que ça ne l'est pour nous aujourd'hui. Il a dû apprendre que la parole de Dieu peut tout accomplir. C'est par la parole que Dieu a créé le monde, c'est par la parole que Dieu a appelé Abraham, c'est par la parole qui va délivrer le peuple d'Égypte, qui va les rassembler au Sinaï pour faire d'une nation. C'est par la parole que Dieu a ressuscité Lazare. C'est par la parole que l'Église a été établie. C'est par la parole que Dieu nous a sauvés, qui continue d'agir dans nos vies. Sans elle, Dieu est absent. Si vous réfléchissez, c'est le seul endroit où nous trouvons la bonne nouvelle du pardon des péchés. C'est le seul endroit où nous pouvons être amenés à croire en Jésus-Christ et avoir la vie en son nom. Il n'y a rien de plus important que nous puissions faire que d'apporter cette parole au monde. Et c'est ça, alors, le moyen principal, et Dieu nous demande de nous confier dans ce moyen-là pour accomplir notre mission dans ce monde, la parole, mais la parole jointe aux signes. Parce que Dieu donne des signes à Moïse. Alors, je vais juste dire quand même quelques mots par rapport à ça, parce que je ne vais pas aller dans les détails, mais Mais Dieu donne des signes à Moïse, et j'aimerais qu'on se pose juste trois questions par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est tout d'abord un signe? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est étrange, hein, un bâton qui se transforme en serpent, de l'eau qui se change en sang, mais contrairement à ce que ça pourrait suggérer, un signe, c'est pas juste un tour de passe-passe, hein, pour impressionner la galerie. Ça paraît bête de le préciser, mais un signe, comme son nom l'indique, ça signifie quelque chose. Enfin, c'est une représentation symbolique d'une vérité. Alors, deuxième question, pourquoi ces signes-là? Pourquoi ces trois signes et pas d'autres? Hein? On se doute bien que ils n'ont pas été donnés au hasard, puisque s'ils signifient quelque chose, ils n'ont pas été donnés au hasard. Alors, rien ne nous est dit pourquoi ces signes-là plutôt que d'autres, mais il semble que ces trois signes, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils laissent déjà entrevoir la supériorité de l'Éternel sur le Pharaon et sur les faux dieux d'Égypte. Le bâton qui se transforme en serpent et que Moïse peut prendre sans être piqué, parce que les pharaons portaient, vous voyez un peu sur les images, on a bien l'image, hein, les pharaons portent sur leur couronne un serpent qui était lié à la divinité principale en Égypte. Et en permettant à Moïse comme ça de vaincre le serpent, Dieu montrait qu'il dominait les puissances égyptiennes, autant le pharaon que les faux dieux d'Égypte. La main lépreuse que Dieu guérit, c'est plus difficile, mais il y a des passages en Exode 15, en Deutéronome 28, où il semble que la lèpre était particulièrement répandue en Égypte, et surtout incurable par les magiciens égyptiens, alors que Dieu, lui, il est en contrôle de la maladie. Il blesse et il guérit. Et puis, le Nil, l'eau du Nil changée en sang, vous savez, le Nil, c'est la puissance, c'est la richesse, c'est la grandeur de l'Égypte résumée en un seul mot, vraiment. Hein, le Nil, bah, c'est toujours vrai aujourd'hui, ça rend tout le pays d'Égypte extrêmement fertile. Et les Égyptiens de l'époque considéraient le fleuve comme un dieu, comme une divinité qui symbolisait la vie. Et donc changer l'eau du Nil en sang, pour Dieu, ça revenait à menacer vraiment l'Égypte de destruction. Donc, vous voyez, ces trois signes, leur signification, c'est que Dieu domine sur le Pharaon, sur les dieux d'Égypte, qu'il a la victoire sur les puissances du mal, qu'il va délivrer son peuple de manière éclatante. Voilà pourquoi Dieu donne ces trois signes-là à Moïse et pas d'autres. Alors, troisième question, juste. Quelle était leur fonction? Parce qu'on l'a dit, les signes ne devaient pas se substituer à la parole. Moïse devait annoncer, proclamer la parole de Dieu pour que les Israélites croient. Et d'ailleurs, c'est juste un peu une parenthèse, mais souvenez-vous que Jésus lui-même, lorsque les Juifs viennent vers lui et lui demandent un signe pour qu'ils puissent croire en lui, est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus a répondu aux Juifs? Il leur a dit justement d'écouter Moïse et les prophètes. Il dit en Luc 16, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Vous voyez, les signes ne produisent pas la foi, mais ils ont pour fonction de confirmer la parole de Dieu et d'illustrer sa puissance, pour que les hommes croient à la parole prêchée. C'est ça leur rôle. Et ça, c'est le cas aujourd'hui encore, parce que Dieu nous donne des signes à nous aussi. Dieu nous donne à nous des signes, il nous en a donné, le signe du baptême, le signe de la Sainte Cène. C'est des signes qui confirment ses promesses et qui illustrent la bonne nouvelle du salut. Alors je ne vais pas entrer dans ces sujets-là, du baptême, de la Sainte Cène, mais simplement pour vous montrer, vous voyez, que les moyens que Dieu donne à ceux qui l'envoient porter la bonne nouvelle du salut au monde, ces moyens-là demeurent inchangés. Dieu équipe lui-même ceux qui l'envoient avec sa parole jointe au signe. On aimerait parfois que les choses soient un peu plus spectaculaires, que ça aille plus vite. Hein, quand on aimerait faire quelque chose quand on voit justement, comme je disais tout à l'heure, la misère, l'injustice, la corruption qui est autour de nous. On aimerait pouvoir agir. On est attristé aussi de voir quand chez les personnes qui nous entourent, on a l'impression que la parole de l'évangile entre par une oreille et qu'elle ressort par l'autre. Mais Dieu nous demande de nous confier dans sa parole, dans ses moyens-là, sa parole accompagnée des signes, parce que cette parole, c'est cette parole-là seulement qui peut produire des changements en profondeur. Hein, C'est ça la différence. Toutes les autres choses qu'on peut proposer au monde, toutes les autres choses qu'on peut faire, produisent des changements en surface seulement. Seule la parole peut produire des changements dans le cœur, véritablement. Voilà, ça c'est les moyens de la mission. Deuxièmement, et plus rapidement, la promesse de la mission. Je vous invite à relire juste les versets 10 et suivants. Quelle est la promesse de la mission? Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. L'Éternel lui dit: Qui a donné une bouche à l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et là, écoutez bien, parce que l'expression alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse n'est pas tout à fait exacte, grammaticalement et logiquement aussi. C'est plus une concession que Dieu fait à Moïse. Bien que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, il lui dit, etc. Et là, la bonté de Dieu envers Moïse est extraordinaire, parce que c'est la cinquième objection que Moïse soulève. Vous vous rappelez peut-être, on avait vu les premières la dernière fois, au chapitre 3, verset 11. Moïse refusait la mission parce qu'il se sentait inadéquat. Qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Au chapitre 3, verset 13, Moïse refusait la mission que Dieu lui donnait parce qu'il se trouvait ignorant. Que leur répondrai-je s'ils me demandent ton nom? Au début de notre chapitre ici, Moïse est incertain, ils ne me croiront pas. Au verset 10 du chapitre 4, on vient de le voir, il se trouve incompétent. J'ai pas la parole facile. Mais là, c'est autre chose, parce que il refuse carrément d'obéir à Dieu. Envoie qui tu voudras envoyer, sous-entendu qui tu voudras envoyer, mais pas moi. Dieu est bien sûr en colère contre Moïse, mais il est prêt à faire une concession avec Aaron, verset 14, encore une fois. Bien que la colère de l'Éternel s'enflammât contre Moïse, il lui dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Dieu prend note de la faiblesse de Moïse et il propose ce qui semble être un second choix dans la personne d'Aaron. Seulement, et ça c'est vraiment important de voir, ce second choix avait toujours été l'intention première de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on pourrait avoir l'impression dans ce verset que Dieu est coincé par le refus de Moïse et qu'il se dit, bon, enfin, au hasard, Aaron est en train de passer par là. Alors Dieu se dit, bon, ben, je reporte mon choix sur Aaron. C'est un peu le sentiment. Il dit, ben, d'ailleurs, et voilà, il arrive par là. Bon, prenons Aaron à la place. Seulement, c'est pas le cas. Si vous regardez le verset 27, si vous avancez un peu plus et vous allez au verset 27, on a comme un flashback au verset 27. On se retrouve avant qu'Aaron ne se soit mis en route et on découvre qu'il n'y a pas de hasard, que c'est Dieu lui-même qui a ordonné à Aaron d'entreprendre ce voyage dans le désert à la rencontre de Moïse, verset 27. L'Éternel dit à Aaron: Va dans le désert au-devant de Moïse. Il partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Donc vous voyez, ce qui nous apparaît à nous comme un second choix n'en était pas un. C'était l'intention première de Dieu que Aaron vienne comme un appui de la faiblesse de Moïse pour qu'elle soit encore plus visible, pour que Moïse soit obligé de s'appuyer sur Aaron et que l'un l'autre dépende l'un de l'autre pour que leur faiblesse soit évidente. Et ça nous montre que Dieu, et ça c'est vraiment clé pour nous aussi, Dieu accorde toujours les bénédictions qu'il a prévu d'accorder, mais il le fait de manière à exposer notre faiblesse et à magnifier sa grâce et sa puissance. Et c'est ça vraiment la promesse de la mission, c'est que Dieu emploie notre faiblesse. Il accomplit toujours son dessein, son projet, mais au travers de notre faiblesse, de manière à ce que sa grâce soit manifeste pour tous. C'est ce que Paul dira plus loin en 2 Corinthiens. Il écrit que Dieu lui a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul ajoute, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On a tous des faiblesses, comme Moïse qui ne savait pas bien parler de naissance. Dieu qui sait toutes choses nous a créés avec certains dons et pas d'autres, avec une apparence certaine, avec une personnalité, un caractère qui nous est propre, avec des capacités limitées aussi. Mais les exemples de Moïse et de Paul nous montrent que qu'avec Dieu, ces faiblesses, ce ne sont pas des handicaps, mais ce sont des choses dont nous pouvons même nous glorifier, nous dit Paul, parce que Dieu utilise nos faiblesses de sorte que nos victoires, nos réussites dans quelque domaine que ce soit, on les met toujours sur le compte de Dieu. Et même en tant qu'Église, l'Église, elle est à l'image de son Seigneur crucifié. Nous, avec notre petit nombre insignifiant ici, on fait que illustrer la folie de la croix, la faiblesse de la croix, et on n'est pas un second choix. L'Église, méprisable aux yeux des hommes, décevante parfois à nos yeux, c'est l'intention première de Dieu. Justement, parce que comme je disais, il accorde toutes les bénédictions qu'il a prévu d'accorder à nous, au monde, mais il le fait de manière à exposer la faiblesse humaine et à célébrer sa grâce et sa puissance à lui. Comme Paul dit encore, nous portons ce trésor de l'Évangile qu'on doit apporter au monde, qui est notre mission. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà quelle est la promesse de la mission. Dieu emploie la faiblesse de ceux qui l'envoient pour manifester sa puissance et sa grâce. Prenez juste les 5 objections de Moïse que j'ai soulevées tout à l'heure. La première, qui suis-je? On est tous inadéquats. Là où Dieu nous a placés, bien sûr qu'on est inadéquats. Comment est-ce que moi je vais pouvoir faire une différence là où Dieu m'a mis avec telle ou telle personne? La deuxième, que leur répondrai-je? On est tous ignorants. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas de Dieu, qu'on ne comprend pas de ceux à qui on aimerait partager l'Évangile. Ils ne me croiront pas. La troisième objection de Moïse. On est tous incertains sur l'intérêt des gens pour la bonne nouvelle, sur les fruits que peuvent produire vraiment nos efforts. Je n'ai pas la parole facile. On est tous incompétents pour expliquer l'Évangile, pour le rendre vivant, percutant pour les gens qui nous entourent. On est tous inadéquats, ignorants, incertains, incompétents, mais ne soyons pas insoumis, comme Moïse l'a ici. Envoie qui tu voudras envoyer, mais pas moi. Malheureusement, on a tous cette tendance-là, je crois, de nous servir parfois de nos faiblesses, de nos insuffisances comme excuse pour nous dérober devant une tâche difficile. Mais Dieu les considère, nos faiblesses, nos insuffisances, précisément comme des qualités. C'est quand les ressources et la puissance humaine manquent, plutôt quand on cesse de compter sur elles, que Dieu peut le mieux accomplir ses desseins. Alors, voilà quelle est la promesse de la mission. Et troisièmement, la condition de la mission. Qu'est-ce que Dieu exige de la part de ceux qui l'envoient? Et c'est ce qu'on découvre dans ce dernier épisode du chapitre 4, un épisode étrange, qui vous a peut-être surpris aussi. Moïse, à qui Dieu a fait la promesse d'être avec lui, Moïse, à qui Dieu annonce aussi, vous aurez vu au verset 19, il lui dit que ceux qui en Égypte en voulaient à sa vie sont morts, donc il n'y a plus de danger de mort, il peut y aller, c'est bon. Moïse va voir Jéthro, son beau-père, et il lui annonce son départ. Après 40 ans passés à Madian, Moïse prend sa femme et ses enfants et il rentre en Égypte. Mais pendant ce voyage, et ça peut paraître complètement contradictoire, alors que Dieu vient de lui promettre d'être présent, Dieu vient de lui dire « il n'y a plus personne qui en veut à ta vie », Pendant ce voyage, Dieu lui-même vient à la rencontre de Moïse et il veut le mettre à mort. Verset 24. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Bien. Comment comprendre ces versets? Qu'est-ce que cet incident-là il vient nous dire? Qu'est-ce qu'il signifie? La première chose qu'il faut voir, c'est que la traduction ne nous aide pas vraiment. Il y a des mots qui sont ajoutés. Le nom de Moïse, par exemple, vous voyez, il est en parenthèse ici, il n'apparaît pas dans l'original. Et il y a des mots qui sont mal traduits, particulièrement l'expression époux de sang, qu'il faudrait plutôt traduire par parent de sang. Donc je vous relis le passage. Écoutez, pendant le voyage dans un lieu où il passait la nuit, c'est qui il? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est son fils? L'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha ses pieds en disant « Tu es pour moi un parent de sang. » Et l'Éternel le laissa. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile de savoir qui est-ce que Dieu veut mettre à mort. Est-ce que c'est Moïse vraiment ou est-ce que c'est son fils premier-né, Guershom? Et en fait, sûrement que l'ambiguïté est délibérée pour rappeler que les destins de Moïse et de son fils premier-né sont liés. Venez juste voir avec moi rapidement en Genèse 17. En Genèse 17, on a un peu la clé de cet épisode, où, dans ce passage où Dieu fait alliance avec Abraham, en Genèse 17, verset 9. Genèse 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Et voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. Et puis verset 14 encore. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Donc, vous voyez dans ce passage, si un père, Moïse, dans notre cas, si on revient en Exode 4, si un père négligeait de circoncire son fils, c'était une désobéissance à l'alliance qui était passible de mort. Et c'est ça qui se passe dans le passage ici, à cause de la désobéissance de Moïse, qui apparemment n'a pas circoncis son fils, premier-né. Dieu veut le mettre à mort, lui, peut-être son fils, peut-être les deux, probablement les deux. Et c'est Séphora qui doit rattraper la faute de Moïse en venant, en versant le sang de son fils premier-né, en faisant elle-même ce que Moïse aurait dû faire. Alors, je me rends bien compte que ce n'est pas tout à fait satisfaisant, il y a encore bien des détails qui nous échappent dans cet épisode. Mais voilà, c'est assez énigmatique, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous montre quelle est la condition de la mission. Dieu exige l'obéissance de ceux qui l'envoient. Et c'est important de voir ça parce que Dieu, oui, a de la patience avec nos faiblesses. Il les utilise même, on vient de le dire, mais Dieu n'a pas de patience avec le péché. C'est comme s'il est en train de dire à Moïse, tu es incertain. Je peux travailler avec ça. Tu es incompétent, je peux travailler avec ça. Tu ne sais pas parler, c'est pas grave. Tu es désobéissant, ça c'est grave. Grave au point où Dieu est prêt à mettre à mort celui qu'il a pourtant choisi pour délivrer son peuple. Et je crois que c'est capital pour nous de voir ça parce que c'est vrai pour moi, on parle parfois de nos faiblesses d'une manière un peu imprécise. C'est tout à fait biblique de dire que Dieu utilise nos faiblesses, mais c'est la faiblesse de nos capacités, c'est la faiblesse de nos compétences naturelles, de nos incompétences naturelles, j'aurais plutôt dire. C'est la faiblesse de notre expérience. C'est jamais la faiblesse du péché que Dieu emploie. Alors, ne parlons pas à la légère de comment Dieu utilise nos faiblesses. Et Dieu utilise ma faiblesse, donc je vais juste simplement continuer à de pécher, de tolérer mon impatience, mon orgueil, mon ingratitude. Je vais simplement continuer toutes sortes de pratiques et voilà, Dieu va utiliser ma faiblesse. C'est faux. Ce passage où Dieu est prêt à mettre Moïse à mort nous montre que ces attitudes qu'on peut tolérer dans notre vie sont graves aux yeux de Dieu. On a vu les moyens de la mission. Dieu équipe lui-même ceux qu'il envoie avec sa parole jointe au signe. On a vu la promesse de la mission. Dieu emploie la faiblesse de ceux qu'il envoie pour manifester sa puissance et sa grâce. Et on voit ici la condition de la mission. Dieu exige l'obéissance de ceux qu'il envoie porter la bonne nouvelle de son salut. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, vous voyez, lorsque les moyens sont utilisés, lorsque les bons moyens sont utilisés, lorsque la promesse est saisie, lorsque la condition est respectée, eh bien, il se produit ce qu'on voit au verset 31. Par la grâce de Dieu, le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Et c'est ce qu'on aimerait voir, n'est-ce pas? Ici, aujourd'hui, de la part de ceux qu'on aime, de ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils croient, qu'ils s'inclinent et se prosternent. Et c'est lorsque les moyens sont utilisés, que la promesse est vraiment saisie par la foi et que la condition est respectée, que par la grâce de Dieu, cela se produit. J'aimerais juste conclure en précisant que, bien sûr, pour nous que Dieu a appelé à lui par sa grâce, notre désobéissance, elle est couverte par le fait qu'un autre fils premier-né a versé son sang pour nous. Bien sûr, cette histoire de Moïse n'est pas la dernière histoire dans la Bible où un prince libérateur a quitté le palais royal pour partir dans une mission de secours impossible à tout point de vue humain. Mais vous connaissez cette autre histoire et vous savez que cet autre prince, le fils du grand roi du ciel et de la terre, lui n'a pas dit non, envoie qui tu voudras, mais surtout pas moi. Il a pris la forme d'un serviteur obéissant. Dans le jardin de Gethsémané, il a dit oui à la volonté de Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort et son sang a coulé à la croix pour que notre obéissance soit pardonnée. Et bien que Dieu exige toujours de nous l'obéissance parfaite et constante à sa volonté, il se plaît à recevoir, à approuver nos efforts sincères mais imparfaits pour nous conformer à sa volonté, parce qu'il nous voit en son Fils, Jésus-Christ. Et vraiment, c'est cette réalité-là qui doit être le moteur de notre mission, c'est de vouloir apporter cette bonne nouvelle du pardon des péchés, d'une faveur retrouvée de Dieu, à la partager avec le plus grand nombre. C'est ça qui est vraiment au cœur, et de voir des gens croire, se tourner vers Dieu, s'incliner, et se prosterner, recevoir ce pardon Jésus-Christ. C'est vraiment ça qui doit être au cœur de notre mission. Alors que Dieu nous aide à utiliser ses bons moyens, à nous saisir vraiment de cette promesse par la foi, et à respecter la condition qu'il pose ici pour ceux qui l'envoient dans sa mission. Je vous invite à répondre à ce message par un chant, un dernier chant. On va terminer ce culte par un cantique. Ensuite, je vous invite à vous lever pour ce chant. Et vous pourrez rester debout pour la bénédiction finale tout à l'heure. Donc, c'est dans le carnet, le numéro 30.